se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive vos champs participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Carrefour.
Quand vous me dites
« Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip large Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC.
Et là, on va évoquer un sujet bon, qui n'est pas forcément très très drôle. Hein.
Non,
c'est lorsqu'on
même
constate
si on a voulu
que... Oui.
Décrisper un petit peu.
Oui, décrisper l'antenne, évidemment. Mais c'est vrai que, bon, voilà, quand on constate des fissures sur les murs de sa maison ou de son appartement, bah, tout de suite, on n'est pas très rassuré. On va en parler avec nos invités ce matin.
Voilà, nous avons deux invités ce matin. Florence Sorrentino, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable marketing produit chez Toutprêt, qui est un industriel spécialisé dans les produits de rebouchage, notamment de fissures, de trous des murs intérieurs, mais aussi extérieurs.
Tout à fait.
Et puis Stéphane Grindorge, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes bonjour. Directeur réseau Open Group et vous êtes spécialisé dans le traitement des fissures que je qualifierais de structurelles, qui sont liées notamment au phénomène de gonflement, retrait des terrains argileux. On va en parler. Alors effectivement, lorsqu'on a des fissures dans une maison, intérieure ou extérieure, la première des choses, on a tout de suite le sentiment qu'on est en danger pratiquement. Hein. Alors il y a des fissures qui sont dangereuses et puis d'autres qui le sont moins. Alors on va commencer par celles qui le sont moins avec Florence Sorrentino, donc de chez Toutprêt. Donc vous êtes spécialisé dans les, on va dire, dans les enduits de rebouchage.
Alors les enduits de rebouchage et les enduits de préparation des fonds pour la rénovation notamment et avant donc les remises en peinture.
D'accord.
Donc on prépare les supports avant de les remettre en peinture.
Alors il y a micro fissure, il y a fissure, il y a lézard. On a l'impression qu'il y a une espèce de de graduation.
Tout à fait.
Dans la catastrophe.
C'est même normé. Bon, ça c'est pas très grave. Enfin,
oui.
C'est pas très grave. C'est
ah
pas
bah
très
si,
important.
Allez-y, dites-nous.
Alors, les micro-fissures sont des fissures qui sont inférieures à 0,2 mm.
Oui.
Alors que les fissures, elles vont jusqu'à 2 mm.
D'accord.
Au-delà, on parle de lézardes. Donc très clairement, lorsqu'on prépare les supports avant décoration, on va s'intéresser donc aux micro-fissures et aux fissures qui ont plus un caractère en fait esthétique et surtout pas structurel.
D'accord. Alors une micro-fissure. 0,2 mm, c'est vraiment rien du tout, quoi.
Rien du tout.
Ça se voit, parce
oui.
que comme le nez au milieu du visage, hein, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on peut se contenter de repeindre ou est-ce qu'il faut réenduire? Est-ce qu'il faut creuser la fissure? Non.
Non, alors là, il peut y avoir des solutions un peu plus simples. Quand même gratter, parce que si effectivement la peinture, si il y a une fissure, peut-être que la peinture autour est plus très adhérente.
Oui.
Auquel cas, il faut brosser pour retirer les parties non adhérentes. Et ensuite, on peut directement mettre un petit calicot et
un calicot, c'est une bande de tissu.
Une bande de tissu et qu'on vient coller directement à la
D'accord.
peinture et ensuite on repeint.
D'accord.
Ça, dans le cadre des micro-fissures, c'est suffisant.
Alors, deux types d'enduits. Il y a des enduits qui sont à gâcher, c'est-à-dire qui sont en poudre à mélanger avec de l'eau. Puis il y en a qui sont prêts, tout prêts, sous forme de pâte.
Oui.
Pourquoi il y en a deux? Pourquoi on continue à gâcher de la poudre, sans la gâcher, sans la perdre, évidemment. Pourquoi il y a encore les deux produits?
Bah, en fait, c'est deux techniques complètement différentes. Et en fonction, effectivement, des travaux à réaliser, on préférera l'une ou l'autre. Dans le cadre des enduits en poudre, donc effectivement, à gâcher, en fait, là, on va avoir un durcissement du produit au fur et à mesure du temps, et donc du coup il se passe un phénomène de cristallisation qui fait que l'enduit en fait prend sa position et ne se rétracte pas.
D'accord.
Alors que dans le cadre d'un enduit en pâte, du coup pour que l'enduit durcisse, il va falloir qu'il perde son eau, Donc, ça va se faire au moment du séchage, mais du coup, il va y avoir un retrait. Donc, effectivement, lorsqu'on va avoir des gros trous, notamment, on va préférer des enduits en poudre parce que ce sera beaucoup plus simple d'utilisation, on aura moins de passe à faire.
Donc, ça, c'est clair. Gros trous, grosse fissure, la poudre.
Oui, tout à fait.
Pour le reste, pour les petits rebouchages.
Après, pour les petits rebouchages et notamment pour les fissures, ce qui peut être intéressant, c'est plutôt d'utiliser donc, des enduits prêts à l'emploi et souples. Pourquoi souples ? Parce que du coup, ça va être des enduits qui vont avoir la particularité d'absorber les légères déformations du support. Donc on ouvre la fissure soit avec un triangle notamment si on est en intérieur. On enduit la fissure avec un enduit souple.
Oui.
On vient par-dessus mettre une bande adhésive pour le coup.
Oui.
Donc il y a une espèce de bande grillagée et sur lequel effectivement après on vient noyer ça dans l'enduit. Donc on vient passer une couche d'enduit et après on remet en peinture.
Mais alors ça veut dire qu'il va falloir enduire très largement autour parce que sinon on va avoir le fantôme quelque part de la fissure, de la zone fissurée.
Alors oui, il faudra faire une reprise un petit peu plus large dans le cas de vraies fissures. Ça va être nécessaire. Ou alors, une autre solution, c'est d'utiliser toujours un enduit souple et par-dessus de venir mettre un revêtement qui, lui, sera également un peu élastique. Auquel cas, effectivement, là, vous pouvez passer l'étape de la bande à fissure.
Oui, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et à l'extérieur, si on a une grosse fissure, on la creusera comment ?
Ah oui, alors attention, là, j'étais sur l'intérieur.
Vous étiez sur l'intérieur.
Oui, tout à fait. Sur l'extérieur, pour le coup, là, lorsqu'on a des fissures, attention, on est sur le bâti, on est sur quelque chose qui doit être étanche parce que c'est la première protection qu'on a. Donc là, clairement, les fissures. Alors, quand on a des fissures, il faut effectivement les ouvrir. Pour le coup, là, on les ouvre avec un disque de façon à bien ouvrir la fissure au moins jusqu'à 5 par 5 en V.
5 par 5
enfin, 5 mm. 5 mm de largeur.
5 mm de large, 5 mm de profondeur.
Et plutôt en V. Donc oui. Avec le disque. Et là, effectivement, on vient mettre un enduit souple. Et derrière, il faudra effectivement remettre aussi une bande à fissure. Et pour le coup, venir en plus finir avec un revêtement d'impair type I4 pour les connaisseurs. Mais du coup, qui soit un peu élastique pour reprendre ses fissures.
Alors, évidemment, c'est un sujet qui vous concerne, la fissure, puisque nous avons pas mal de questions à la fois sur Direct Studio ou au 32-16. Et Jean est là avec nous. Bonjour Jean.
Oui, bonjour. Oui.
Bonjour Jean.
Bonjour.
Bienvenue
bonjour,
Jean sur bonjour. RMC. Alors, on vous écoute.
Je vous entends mal, excusez-moi.
Alors, nous, on vous entend bien, c'est l'essentiel. Expliquez-nous ce qui se passe.
Alors, en fait, voilà, je vous appelle parce que j'ai. C'est pas ma maison qui fissure, en fait, c'est la maison de mon voisin.
Oui.
Et le problème, c'est que son terrain, enfin sa maison, son mur, il est le long de mon terrain. Et dans cette partie, je dois faire des travaux d'aménagement. Je dois faire une allée pour rentrer ma voiture. Et étant donné que sa maison fissure, on m'a vivement conseillé de ne rien faire. Car le problème, c'est qu'on peut m'accuser d'avoir fait fissurer son mur.
Bah écoutez, vous faites des photos avec le redatage, c'est facile maintenant. En démontrant que sa maison elle est déjà fissurée et que c'est pas vos travaux qui vont fissurer. Là, on n'est pas tellement dans la question du traitement des fissures. On est dans les effectivement problèmes de voisinage. Au besoin, vous faites si vous avez de gros travaux à entreprendre, eh bien faites peut-être faire un constat d'huissier de la situation du mur de votre voisin.
D'accord, très bien.
Voilà.
Et donc on constate ici avec photo et ensuite je dois me retourner vers les voisins pour les prévenir ou...
Oh bah c'est toujours pas mal de prévenir ses voisins quand on va faire des gros travaux chez soi qui peuvent avoir des conséquences sur les voisins. Mais après c'est à l'entreprise qui fera vos propres travaux de prendre ses responsabilités par rapport aux conséquences sur le voisinage.
D'accord. Voilà. En fait, le voisin peut se retourner contre les entrepreneurs.
Il se retournera contre vous. Hein, de toute façon, il se retournera pas contre les entreprises. C'est vous qui devrez ensuite gérer ça avec vos entreprises.
D'accord.
Merci,
Jean. Très bien.
Merci.
Je vous remercie beaucoup.
Je vous en prie. Voilà. Hein. C'est tout comme Jean. Vous avez des questions sur les murs fissurés, les maisons fissurées, les apparts aussi. N'hésitez pas, 32-16.
Alors, on va parler justement des fissures structurelles avec Stéphane Grindorge. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur réseau d'une structure spécialisée justement dans ces fissures structurelles. Alors, ces fissures structurelles, elles proviennent quand même des changements climatiques. On peut le dire, même si elles ont toujours existé, c'est le phénomène de gonflement-retrait des argiles. Vous pouvez nous expliquer comment ça marche ?
Alors, très simplement, le retrait-gonflement des argiles, on va essayer de faire simple,
oui.
se schématise. On imagine la construction d'une maison sur une éponge qui, lorsqu'elle est mouillée, se gorge d'eau, gonfle, et lorsqu'il fait très chaud, donc sécheresse récurrente depuis 2016 maintenant, se rétracte. Autrement dit, la maison va subir un certain nombre de contraintes et se fissurer.
Oui, parce que la maison, elle est rigide, et puis ça bouge d'un côté ou de l'autre. Alors, à partir de quel moment on peut suspecter ce phénomène ? C'est d'abord une question de terrain, certainement, mais je dirais, il y a aussi l'évolution. Comment on contrôle l'évolution d'une fissure ?
Alors, pour contrôler une fissure, on a plusieurs possibilités. La plus ancienne des méthodes, ce serait de faire un petit émoi au plâtre
avec la date dessus.
Voilà, on va marquer la date
avec un clou,
un clou par exemple qu'on va graver. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, qui est un petit peu plus récente et un peu plus évoluée, va être la pratique de pose de jauge.
Ah oui, j'ai vu ça l'autre jour. Alors, c'est des petits trucs avec une petite, presque un petit repère. Et puis,
voilà, vous avez la possibilité sur ces jauges de faire une lecture au dixième de millimètre, ce qui permet donc de faire des relevés trimestriels. Parce que c'est vrai que les fissures génèrent un phénomène psychologique qui empêche souvent les gens de dormir et découvrent des fissures nouvelles tous les jours qui en réalité sont là depuis déjà un certain temps. Donc ces relevés se font trimestriellement et on va pouvoir surveiller l'évolution éventuelle des fissures au dixième de millimètre.
D'accord. Et ça évolue vite, ça évolue à partir de quel moment on peut commencer à paniquer en se disant oulala, parce que moi on voit des photos, c'est effrayant, hein, des lézards de 2 cm de largeur. Hein.
Alors, à partir du moment où on se trouve déjà sur des crevasses ou des lézards, il est tard pour s'inquiéter, concrètement. Il est déjà un peu tard pour s'inquiéter.
Il faut s'en aller, quoi.
Non, il ne faut pas forcément s'en aller.
Appelez, allô, vous avez un bulle, merci.
Mais dès qu'on arrive déjà dans ce phénomène, si on ne s'en est pas inquiété avant, il est de bon ton de consulter un expert bâtiment en construction, idéalement spécialiste en pathologie du bâtiment, qui... les maladies du bâtiment, qui va tout de suite poser un diagnostic sur l'état structurel du bien.
Nous avons Nicolas au 32-16. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Vous êtes en voiture, Nicolas ?
Oui, je suis arrêté maintenant.
Parfait, très bien. Alors, on vous écoute, Nicolas, racontez-nous.
Voilà, je vous appelle parce que j'ai eu une livraison d'appartement le 19 juillet dans un appartement neuf, un bâtiment neuf. Et après cette livraison, on a constaté à plusieurs reprises des fissures sur des murs béton. Et le promoteur nous a annoncé que c'était normal parce que après l'élévation du bâtiment, il y avait une période pendant laquelle il bougeait et on est donc du coup posé sur un sol argileux.
Ouais, bah écoutez, alors moi je vais tout de suite vous dire l'argumentation selon laquelle les maisons, c'est normal qu'elles travaillent, c'est normal qu'elles fissurent parce qu'il faut que ça se tasse, non, tout ça c'est du pipeau, hein. Il faut immédiatement intervenir et effectivement, alors est-ce que monsieur Grindorge,
alors juste Nicolas, vous avez beaucoup de fissures dans votre appartement ?
Non, on en a déjà constaté à la livraison 2 et depuis qu'on est dans l'appartement. On en a retrouvé de nouveau 3 ou 4. Donc à chaque fois, ils sont intervenus.
Pour les reboucher, simplement.
Voilà, c'est ça. Donc en fait, avec ils écartent un peu la fissure, ils mettent un enduit de rebouchage.
C'est exactement ce que nous a dit Mme Sorrentino il y a quelques minutes. Mais c'est tout.
Voilà, mais ça s'est arrêté à ça. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est le bâtiment entier, à mon sens, qui
bouge.
Parce que, au niveau de la place de parking, sur ces fameux murs de béton, on constate aussi qu'il y a des petites fissures qui se créent un peu partout, quoi.
Stéphane Grindorge, les bâtiments collectifs aussi peuvent donc être concernés. Qu'est-ce qu'il faut faire dans un cas comme ça ? Ils viennent en plus d'emménager. individuellement, parce que si on a une maison individuelle...
Mais c'est une erreur de construction, oui. Là, c'est un défaut de construction.
C'est un problème d'études de sol qui a été insuffisant.
Probablement un problème d'études de sol, d'adaptation des fondations à la nature du sol. Probablement, encore une fois, il faudrait visualiser le problème pour le savoir, mais dans ce cas précis, individuellement, ce sera compliqué de mener une action, puisque le problème répond à la copropriété, et il faudrait que chaque copropriétaire signale les désordres qu'il a pu constater au syndicat des copropriétaires, KIRFA, qui va faire remonter l'information au syndic, cas échéant s'il y en a un, et qui mènera une action auprès du promoteur.
Et alors, d'accord, mais qu'est-ce qu'il peut faire le promoteur? Il va pas raser l'immeuble et le reconstruire? Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut que reboucher les fissures quand elles apparaissent, ou il y a autre chose à faire?
On va entrer justement dans le curatif. Alors, oui, qu'est-ce qu'on fait, même sur un immeuble? C'est la même chose qu'une maison individuelle. Donc,
et est-ce qu'il y a un risque? Est-ce que c'est dangereux que, comme ça, au bout d'un mois après la construction d'un immeuble, les murs des appartements se fissurent? Alors, il faut s'en inquiéter ou finalement, bon, c'est pas grave?
Toutes les fissures, à mon sens, que ce soit des micro-fissures jusqu'aux lézardes, dénotent de tension qui s'exerce sur la structure. Donc, toutes les fissures doivent être prises au sérieux. Dans ce cas de figure, évidemment, ça doit être pris au sérieux et le promoteur ne va pas décider de raser l'immeuble, mais plutôt surveiller l'évolution éventuelle de ces fissures pour ensuite mener les actions correctives sur les fondations si c'est la problématique réelle sur ce bâtiment.
Ah oui, on a vu des immeubles entiers s'écrouler, hein ?
Oui, tout à fait.
Pas très loin d'ici d'ailleurs.
On revient dans un instant, il est 7h43, c'est RMC, c'est le week-end des experts, c'est la maison, à tout de suite. Le retour du week-end des experts, la maison avec Christian Pessé, on évoque les maisons qui se fissurent, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, hein, cause évidemment de la sécheresse, hein, des aléas climatiques, et on en parle avec nos invités avant de retrouver Nathanaël qui a une question sur un tout autre sujet, Christian.
Voilà, alors Stéphane Grindorge, vous êtes spécialiste donc de ces fissurations, Florence Sorrentino de chez Tout Près, elle fait du rebouchage. Finalement. Donc il n'y a pas ça peu après vous. On va dire que il y a quand même des solutions. J'ai parlé du bulle, bon ça c'en était une. Mais c'est quoi les solutions de rattrapage de maisons qui se lézardent?
Bon, alors on parle très souvent de consolidation en sous-œuvre ou de ce qui signifie réparation des fondations. On va avoir deux méthodes qui vont s'appliquer, la technique par micropieux et la technique par injection de résine expansive.
Alors micropieux, on fait un grand trou où on injecte du béton dedans,
c'est ça. On va chercher le bon sol, donc en fonction de la profondeur, ce sera plus ou moins cher et invasif en termes de travaux. Là où la résine expansive, on va avoir approximativement pour une maison qui se fissure, sur une dalle de 100 mètres carrés en reprise, un coût qui va avoisiner les 30 000 euros, grosso modo.
D'accord. Il y a aussi le chaînage de la maison, l'ensemble peut-être de retenir la cohésion, l'agrafage.
Voilà, alors l'agrafage, c'est la deuxième partie. Les travaux de consolidation font toujours l'objet d'un phasage, c'est-à-dire qu'on va consolider les fondations, ensuite on va procéder à l'agrafage, donc le principe de suture, hein, finalement on va suturer la maison, et en dernier lieu on va procéder sur les éléments esthétiques, c'est-à-dire la reprise des enduits de façade.
Alors indemnisation uniquement dans le cas où il y a un classement de catastrophe naturelle de la, dans la commune, et ça se passe comment? Il faut agir très vite, non?
Alors, dès l'apparition de fissures, il est de bon ton de le signaler dans un premier temps, avant même son assureur, de le signaler à la commune, qui, elle, va enregistrer l'ensemble des déclarations faites par les habitants de cette commune. Arrivé à un certain nombre de dossiers déposés chez le maire,
il déposera
un dossier pour une enquête interministérielle. Les délais de cette enquête peuvent varier de 5 à 18 mois, grosso modo. Ouais. À l'issue de quoi sera éventuellement publié un arrêté de catastrophe naturelle. C'est à ce moment-là que le propriétaire aura 10 jours à compter de la publication de l'arrêté, pas un jour de plus, pour signaler à son assurance, voilà. Évidemment.
C'est purement scandaleux.
Et en charge. Ouais. Voilà.
Et donc là, il faut faire sa déclaration à l'assurance.
Tout à fait.
Merci beaucoup.
Merci
donc Stéphane Grindorge donc d'Open Group et Florence Sorrentino de Tout Près.